Alors, on va dire que l'intitulé exact, hein, la question qui nous préoccupe ce soir, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Alors, c'est une question qui est compliquée, cette question, hein. Et là, j'ai 15 minutes donc pour essayer de réfléchir par rapport à cette question. Donc, une première chose qu'on peut dire par rapport à ça, par rapport à la souffrance, quand on pense à la souffrance, c'est que c'est quelque chose qui touche aux émotions. Là, on n'est plus dans la théorie, on est dans le vif du sujet. Je pense que chacun d'entre nous, hein, c'est assez simple de penser à de la souffrance. On a tous fait des cours d'histoire, hein. Je peux prendre un exemple très simple, je peux dire Hitler. Et tout de suite, on pense à l'Holocauste. Tout de suite, on pense à ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Je pourrais prendre des exemples qui commencent à se rapprocher de nous, parce que Hitler, c'était pas notre génération. Je pourrais prendre ces exemples qu'on voit à la télé. Il suffit de rentrer chez vous, d'allumer votre télé si vous en avez une, d'allumer votre radio, hein, et vous allez entendre ce qu'on peut qualifier d'horreur, hein. Je pense encore, il y a peut-être quelques mois, à cette maman qui avait tué son enfant en le laissant dans le congélateur. Donc, quand on voit des choses comme ça, on se dit, mais quelle horreur! Je pourrais encore réduire et parler vraiment de chacun. Là, je pense que chacun d'entre nous dans cette pièce, on a souffert, d'une manière ou d'une autre. Pour ma part, je vous donne un exemple. J'ai perdu mon père en 1997, pendant une guerre civile au Congo-Brazzaville. Il y a eu une guerre civile, mon père est mort. Il a été touché par un éclat d'obus sur la carotide. Il est mort en 5 minutes. Il est mort dans les bras de ma mère, comme ça. Alors, dans ces moments-là, tout ce qu'on a envie, c'est que quelqu'un vienne, nous passe la main sur l'épaule et nous fasse tout simplement une accolade. On ne veut pas du tout entendre. Mais tu sais, si Dieu dit, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Non. Dans ce moment-là, on ne veut pas une explication rationnelle. À ce moment-là, on ne veut pas que quelqu'un cherche à nous dire 2 plus 2 égale 4. Voilà pourquoi est-ce que tu es en train de souffrir. À ce moment-là, on veut simplement que quelqu'un nous aime. On veut simplement que quelqu'un s'asseye à côté de nous. Alors qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur le problème du mal ce soir? Ça nous dit que le problème du mal contient au moins une première dimension. On pourrait dire que c'est un problème émotionnel du mal. À côté de ça, on pourrait dire que c'est un problème intellectuel du mal. Et ce problème intellectuel du mal, quand on va chercher à réfléchir sur le problème du mal, on peut encore le diviser en deux versions. Il y a la version qu'on appelle la version logique, et là on va dire, oui, c'est impossible que Dieu existe et que la souffrance existe en même temps. C'est une impossibilité logique. Et on a la deuxième version, ça va être ce qu'on pourrait appeler, dans un sens, une version probabiliste. Et je m'explique, on va dire, oui, mais vu tout le mal qu'il y a dans ce monde, il est très probable que Dieu n'existe pas. Alors, beaucoup de gens ont tenté de formuler cette question intellectuelle au cours des siècles. Alors, aujourd'hui, on pourrait formuler le problème intellectuel du mal de cette manière. Proposition numéro 1, si Dieu est vraiment comme il doit être, c'est-à-dire parfaitement bon, tout-puissant et omniscient, c'est-à-dire qui sait tout ce qui se passe, le mal ne devrait pas exister. Proposition numéro 2, or, le mal existe. Et ça, je viens de donner des exemples clairs. Donc, conclusion, Dieu, tel qu'on vient de le définir, n'existe pas. Oui, mais pourquoi arriver à cette conclusion? Ben, premièrement, si Dieu est parfaitement bon, ça veut donc dire qu'il peut, qu'il veut empêcher tout le mal qu'il peut, s'il est parfaitement bon. Ben, s'il est tout puissant, Dieu, ça veut donc dire qu'il peut empêcher tout le mal possible. Et s'il sait tout, ben ça veut dire que ben, quelqu'un qui sait tout et qui peut empêcher le mal et qui veut empêcher le mal, ben il le fait. Tout simplement. Alors, la question qui vient tout de suite, après avoir dit ça, c'est mais est-ce que Dieu il doit vraiment toujours empêcher le mal? Et là, imaginez-vous un enfant à qui on donne absolument tout, à qui ses parents donnent tout, et ses parents veulent le protéger absolument. Alors, pour lui apprendre à faire du vélo, ils tiennent le vélo, en fait, tout le temps. Allez, vas-y, 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 tu vas y arriver tout seul, tu vas y arriver, tu vas y arriver, je te jure que tu vas y arriver, tu vas y arriver. On pourra lui faire croire, aussi longtemps qu'on veut, qu'il est en train de faire du vélo. Non, il n'est pas en train de faire du vélo. Il faut le lâcher. Il faut l'exposer pour qu'effectivement, il puisse peut-être tomber et réussir à apprendre du vélo. À faire du vélo, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que la solution viendrait pas dans le fait de dire plutôt un être bon empêche toujours le mal autant qu'il le peut, d'accord, à moins d'avoir une bonne raison de le permettre. Le parent qui lâche le vélo, sa bonne raison, c'est de dire, ben, j'ai vraiment envie que tu apprennes à faire du vélo par toi-même. Tu vas peut-être tomber une fois ou deux, ça va peut-être faire mal, mais c'est pour ton bien, au final. C'est une analogie qui est imparfaite, je vous le conçois, hein, parce que là, on essaie quand même de comprendre pourquoi si Dieu existe, il y a tant de souffrance. C'est une analogie qui est incorrecte, mais ça nous permet au moins d'évacuer le problème logique du mal, qui dit il est absolument impossible que Dieu existe et que la souffrance existe en même temps. Ça, c'est impossible. On peut évacuer ce problème-là parce qu'au final, on commence à comprendre que si on a des bonnes raisons de permettre le mal, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir qu'il n'y a pas de contradiction entre l'existence de Dieu et l'existence du mal. Alors, de quel Dieu est-ce qu'on parle ici? Nous, ici, on va parler du Dieu de la Bible, du Dieu tel qu'il est révélé dans la tradition judéo-chrétienne. Alors, du Dieu qui est amour, qui est parfaitement bon, oui, mais du Dieu qui est aussi parfaitement justice, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui est moral, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui veut rééquilibrer les balances de la justice. Alors, notre dilemme devient donc, ok, Dieu est parfaitement amour, Dieu qui est parfaitement amour, ben, dans la tradition judéo-chrétienne, il crée l'homme apparaît sur la terre et il lui donne la liberté. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ben, étant donné que c'est un être moral aussi, si l'homme agit mal, eh bien, l'homme doit être jugé. On va garder ça en tête parce que ça va nous aider dans la suite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de comprendre? On essaie de tenter de savoir pourquoi alors. Mais alors pourquoi Dieu ne stoppe-t-il pas le mal? Oui, il n'y a pas de contradiction. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le stoppe pas? Et ici, on peut distinguer deux types de mots. On peut distinguer le mal ou la souffrance qui est provoquée par un être humain, et on peut distinguer le mal ou la souffrance qui est provoquée par exemple, des catastrophes naturelles. Ce n'est pas provoqué par des humains. On est bien d'accord. Alors, il y a plusieurs objections, en fait, qu'on peut avoir. Ok, on est arrivé là. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais, Dieu, il devrait, en fait, pour stopper le mal, suspendre les lois de la nature à chaque fois qu'il y a un danger, en fait. Alors, imaginez-vous, on fait une expérience de pensée, là. Moi, Lionel, je sors de là, j'ai envie de tuer quelqu'un. Donc, je vais dans la rue, là. Je sors mon couteau, mon pistolet, et là, je tire. Donc on imagine la balle qui arrive, et là, miracle, la balle s'arrête juste devant la personne. Dieu a stoppé le mal. Et la balle tombe. Ben, c'est fait. Parce que ça, c'est pas une solution qui nous satisfait. Hein? Si Hitler, quand il a tué toutes ces personnes dans les chambres à gaz. Si seulement ça avait pu être ça. Bon, on envoie le gaz, là. Et là, ça ne marche pas. À chaque fois, ça ne marcherait pas, en fait. C'est possible. Et je pense qu'on serait content avec ça. Mais si on pousse l'expérience de penser un peu plus loin. Parce que là, on prend que les cas extrêmes. Oui. Mais allons plus loin. Imaginons maintenant que on ait envie de mentir. Ah, mais moi, j'ai envie de mentir, parce que, j'aime pas trop cette personne, mais je vais dire un mensonge sur cette personne. Et alors, on ouvre la bouche, on va commencer à mentir. Eh ben, je crois que... Eh ben non, Dieu a stoppé le mal, on ne peut plus mentir. Souvent, on utilise les cas extrêmes. Ils sont l'extrême alors, allons plus loin. Oui, si effectivement Dieu devait suspendre absolument à chaque fois toutes les lois naturelles, on aurait un gros problème, parce que ça ferait de nous des robots, des machines, des gens qui finalement n'ont pas la liberté. Non, on n'aurait pas de liberté si Dieu faisait à chaque fois ça. Mais alors, on pourrait se demander aussi, mais si Dieu savait que l'homme allait souffrir, mais pourquoi avoir fait la création? Et alors là, la tradition judéo-chrétienne, en tout cas, nous donne une part de réponse. Elle nous dit, mais pour que bien sûr ces créatures-là connaissent la joie d'exister et qu'elles participent à la gloire de Dieu. Imaginez, est-ce que vraiment, à chaque fois qu'un bébé naît dans votre entourage, est-ce que vous allez à la maternité, vous voyez le bébé et là, vous posez la question fatidique. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait un enfant? Je comprends pas. C'est un monde pourri, là. Pourquoi vous avez fait un enfant? Non, qu'est-ce qu'on fait? Oh, mais il est mignon, c'est trop beau. C'est ça qu'on fait quand on va à la maternité. On s'émerveille que la vie, encore une fois, ait réussi à trouver son chemin jusque dans ce monde. Mais alors, pourquoi ne pas avoir créé un monde avec un bonheur parfait? Ça, c'est la question qu'on pourrait se demander. Ça, c'est une objection réelle qu'on pourrait faire. Mais oui, mais Dieu voulait la bonne volonté des créatures libres. Un monde où tout le monde ferait toujours le bon choix, eh bien, c'est compliqué. Comment s'assurer que une personne est libre, mais qu'elle fasse toujours le bon choix? Ça, c'est vraiment un gros dilemme. Oui, Dieu est effectivement responsable du principe de liberté, mais ce sont les hommes qui sont responsables de leurs actes libres. Ha ha. Mais, et là, on pourrait se demander, mais est-ce que tout ça, ça vaut la souffrance des innocents, des martyrs, des morts précoces, des vies brisées, des sacrifices inutiles, finalement? Eh bien là, la réponse de la tradition judéo-chrétienne dit, aucune vie n'est invisible, aucune vie n'est inutile aux yeux de Dieu. Et les conséquences de la méchanceté humaine sont finalement des suites de la liberté. Et ça ne va pas sans responsabilité devant Dieu. Souvenez-vous, on a dit qu'on a un Dieu amour et on a un Dieu qui est justice. Et oui, il y aura effectivement un jugement à la fin. Il y aura effectivement un jugement. Dieu s'assurera que les balances soient rééquilibrées de manière parfaite. Et là, quelqu'un pourrait dire, oui, ok, c'est bien beau tout ça, mais pour moi, s'il y a au moins un mal précis que je peux trouver et qui est injustifié, ça veut dire que Dieu n'existe probablement pas. Et là, on est dans la version probabiliste. S'il y a au moins un mal qui est injustifié, Dieu n'existe probablement pas. Et ici, on pourrait imaginer que Dieu nous dise, imaginez une journée, un peu comme dans Bruce Tout-Puissant, mais là, ce serait autre chose, ce serait imaginer toute une journée où Dieu vous expliquerait exactement pourquoi est-ce que toutes les catastrophes naturelles sont en train de se produire, ou que tout, et où il vous expliquerait toute la souffrance causée par les hommes, ne fût-ce que pour une journée. Ça nous tourmenterait. Parce qu'à mon avis, les raisons de toutes ces choses nous dépassent absolument. Ça nous tourmenterait littéralement. Je le pense vraiment. Dans le livre de Job, dans la Bible, Job souffre. C'est un livre de la Bible, hein, où il y a un personnage, Job, qui est mis à l'épreuve, qui perd absolument tout. Et c'est un livre qui parle vraiment de la souffrance d'un croyant, pourtant. Hein. Et bien, pendant tout le livre, on se demande pourquoi. Et au final, Dieu, finalement, ne répond pas. Il ne lui explique pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui décrit des choses. Il lui décrit les mystères de la création. Il lui décrit l'immensité de l'espace. Et là, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le gars, il est en train, en fait, de se tirer d'affaire. Non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de montrer à Job que les raisons nous dépassent absolument. Ce qui ne veut pas dire que justice ne sera pas faite un jour. Justice sera faite. Quelle est donc la réponse au problème de la souffrance? Alors, est-ce qu'en disant tout ça, j'ai mis Dieu comment dire, est-ce que je me suis fait l'avocat de Dieu? Est-ce que finalement Dieu, je ne viens pas te le protéger en fait? Vous savez, Dieu, il est confortablement installé au ciel. Hein. Ici, nous, on essaie de réfléchir, hein, on souffre et on essaie de réfléchir pour trouver une solution. Non, ce n'est pas ce que je viens de faire. Parce que figurez-vous que Dieu est venu parmi nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Voilà ce que Dieu est venu faire parmi nous. Alors oui, le problème du mal, c'est un problème intellectuel. C'est un problème émotionnel. Non, l'existence de Dieu et l'existence de la souffrance ne sont pas incompatibles. Un être bon peut permettre du mal s'il a une bonne raison de le faire. Non, ce n'est pas parce qu'il y a du mal sur terre que forcément, probablement, Dieu n'existe pas. Nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons avoir la perspective divine. Nous avons le problème émotionnel du mal. Dieu est venu dans la personne de Jésus. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu souffrir. Alors, Thomas va nous partager un complément et je nous laisse là pour l'instant.
Effectivement, c'est un petit peu sur cet aspect personnel, relationnel, que j'aimerais insister, parce que ce que nous a présenté Lionel, c'est aussi théorique, mais lorsque nous souffrons, comme cela a déjà été dit, nous n'avons pas besoin de réponses théoriques. Ce que nous avons besoin, c'est d'un accompagnement, d'une réponse plutôt pratique. C'est un petit peu comme cette histoire, si vous faites un accident de voiture, est-ce que ça vous intéresse de savoir quelles ont été les forces mises en jeu, ce qui a fait que votre voiture a dérapé, est-ce que ça vous intéresse de savoir quelle était la vitesse avec laquelle vous avez percuté l'arbre, ou simplement vous avez envie qu'on appelle les pompiers. Et en fait, seul le christianisme nous parle d'un Dieu qui a connu lui-même la souffrance. Dieu, une réponse pratique à la souffrance, c'est sa présence, et il ne nous laisse pas seuls. Comme Dieu a expérimenté la souffrance, il peut être solidaire des souffrants. Jésus, c'est-à-dire Dieu venu sur la terre, a connu la souffrance. J'aimerais citer deux versets que l'on trouve dans la Bible qui nous présentent cela. Le premier, en parlant de Jésus-Christ, nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. » Et le deuxième dit, toujours en parlant de Jésus-Christ, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Et cette solidarité de Dieu avec le souffrant est un point fort du christianisme. Et là, j'aimerais vous lire une citation d'un écrivain, je vous le cite. S'il n'y avait pas eu la croix, jamais je n'aurais pu croire en Dieu. Le seul Dieu en qui je crois est celui que Nietzsche a tourné en dérision en le surnommant Dieu de la croix. Dans notre monde de souffrance, comment pourrais-je adorer un Dieu qui en aurait été exempt? Je suis entré maintes fois dans des temples bouddhistes en différents pays d'Asie et j'ai contemplé la statue de Bouddha. Les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'esquisse d'un sourire sur les lèvres, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors, par la pensée, je voyais cet homme abandonné sur une croix, meurtri, les mains et les pieds percés de clous, le dos lacéré, les membres écartelés, le front ensanglanté portant la marque d'une tresse d'épines, les lèvres desséchées traduisant une soif intolérable, plongé dans la plus noire, dans la nuit la plus noire, celle de l'abandon par Dieu. Voilà le Dieu qu'il me fallait. Il a laissé de côté son immunité à la souffrance. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. Fin de citation. Et dans ce « il a souffert pour nous », il n'y a pas seulement la dimension que Dieu aurait expérimenté la souffrance, mais là, il a expérimenté la souffrance dans un but, et ce but était nous. C'est-à-dire que la mort de Jésus-Christ à la croix a un sens très personnel pour nous, parce qu'en mourant sur la croix, il a porté la condamnation que méritaient nos fautes. Un pasteur protestant incarcéré par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer, a écrit cela: seul un Dieu souffrant peut nous aider. Alors, si Dieu a connu la souffrance, Dieu peut aussi consoler le souffrant. Et c'est ce que nous lisons dans un autre verset de la Bible où il est écrit: l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Dieu n'est pas lointain dans la souffrance, Dieu est proche dans la souffrance. Et Paul Claudel, ce poète dramaturge français, membre de l'Académie française, a écrit ceci: Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Merci de votre attention.